France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Comment écrire l'histoire des animaux? Comment écrire l'histoire des vivants qui n'ont pas laissé de traces ou de témoignages, qui ne partagent pas même un langage commun avec nous? L'histoire est un tournant puisque depuis quelques décennies, elle s'intéresse désormais aux animaux et tente de raconter, de remonter le fil de leur histoire. Alors avec quelles sources, quels documents peut-on écrire l'histoire animale du monde? Et que nous dit-elle des arrangements ou au contraire des résistances des animaux à leurs interactions avec les humains? Pour en parler, un invité ce soir. Éric Baratet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine, vous êtes spécialiste des animaux et vous venez de faire paraître Histoire animale du monde à la recherche du vécu des animaux de l'Antiquité à nos jours, un ouvrage qui paraît aux éditions Talendier. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
On sait que Descartes est sans doute beaucoup plus fin que simplement l'animal machine. Mais c'est vrai que c'est un énoncé particulièrement déconcertant. D'abord parce que c'est quand même très contre-intuitif de considérer que si mon chien s'est cassé la patte et qu'il hurle, il ne ressent rien. Comme dit un commentateur de Descartes, c'est un exploit assez extraordinaire philosophiquement de croire cela. Par ailleurs, c'est assez anachronique pour nous. Darwin est passé par là et donc l'idée que la différence entre l'humain et l'animal est gravée dans le marbre d'une métaphysique et que elle est donc absolue cette différence, alors que Darwin nous a montré que des animaux à nous, le processus de la spéciation et de la sélection naturelle introduit une forme de continuité, de différence de degré. Et puis, il y a une dernière chose aussi qui est très gênante dans cet énoncé, c'est l'aspect moral. C'est-à-dire que au siècle suivant, Rousseau et après lui, l'utilitariste britannique Jeremy Bentham diront la question n'est pas de savoir s'ils peuvent parler ou raisonner comme les humains. La question, c'est souffrent-ils? Et bien sûr qu'ils souffrent.
Le philosophe Étienne Babonnet, est-ce que vous êtes d'accord, Éric Baratet, avec cette idée selon laquelle, au fond, si les historiens ont manqué l'histoire des animaux, s'ils se sont si peu intéressés à ce sujet, c'est d'abord parce que notre vision de l'animal est faussée, biaisée. On perçoit encore l'animal comme une machine.
Oui, comme un objet, effectivement. Hein. On les a jamais pensés comme objet d'histoire ou comme sujet d'histoire. Alors, il n'y a pas qu'eux qui ont été éliminés. Hein. Pendant longtemps, on ne pensait pas faire l'histoire de catégories sociales en Europe ou d'histoire d'autres populations humaines. Et donc, voilà, c'est un moyen d'ouvrir maintenant le champ à d'autres vivants qui ont une histoire. Simplement, nous l'avons longtemps dénié aussi, parce qu'accorder une histoire à quelqu'un, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas gratuit. Accorder une histoire à une population ou une espèce, c'est un geste politique extrêmement fort, parce que derrière, il faut avoir les capacités, il faut vous attribuer des capacités obligatoirement. Hein. Lorsqu'on pensait que des populations humaines étaient sans histoire, on pensait aussi qu'elles n'avaient pas les capacités pour avoir une histoire.
Et dans le même temps, il faut rendre à César ce qui est à César. Les premières personnes qui ont entrepris une histoire des animaux, ce ne sont pas les historiens, ce sont des chasseurs, des naturalistes, des amateurs.
Oui, les premiers historiens des animaux ont été des historiens amateurs, du chasseur, l'aficionado, le curé de village, etc. Les historiens de profession, si on peut dire, ne sont venus au sujet qu'à partir des années 70, 80, hein, ils ont été relativement en retard.
Alors qu'est-ce que ça veut dire faire l'histoire des animaux? Est-ce que c'est décrire l'histoire animale du monde ou c'est adopter le point de vue des animaux pour comprendre l'histoire du monde?
C'est les deux, c'est adopter le point de vue des animaux, essayer de se mettre, non pas à leur place, ça n'est pas possible, mais se mettre de leur côté, hein, sur le versant animal.
À leur hauteur aussi?
À leur hauteur aussi, effectivement, pour essayer de comprendre un peu ce qu'ils vivent, comment ils le vivent et comment ils peuvent analyser à leur manière les animaux. Donc c'est un espèce de retournement qui avait d'ailleurs commencé non pas pour les animaux, mais dans les années 70, par exemple, un des grands livres d'histoire, ça a été la vision des vaincus de Nathan Wachtel, où il racontait la conquête de l'Amérique du côté des Indiens. Hein, et on a là ce retournement et qui peut se faire aussi pour d'autres êtres, et en l'occurrence là les animaux.
Je vous cite Éric Baratet, extrait du dernier ouvrage que vous faites paraître aux éditions Talendier. « Passer du côté des animaux doit faire réviser la définition de l'histoire, celle proposée par Marc Bloch, puis adoptée par tous les historiens de science des hommes dans le temps. » Fin de citation. Expliquez-nous ce que ça veut dire.
Eh bien oui, parce que depuis un siècle, nous vivons, la majorité des historiens vivent sur l'idée que l'histoire, c'est la science des hommes dans le temps. Cette définition avait été proposée donc il y a un siècle pour sortir de l'histoire de sa définition simplement politique événementielle. On a voulu en faire une science humaine au sens large du terme, qui pourrait dialoguer avec l'anthropologie, la sociologie, etc. Et bon, très bien, hein, ça a été extrêmement profitable. Mais je pense maintenant qu'il faut aller plus loin. On voit bien que l'histoire n'est pas réservée qu'à l'Occident, l'histoire n'est pas réservée maintenant qu'à l'humanité. Il y a aussi des histoires ailleurs. Et donc, en faire sortir de cette définition pour en faire une histoire des vivants, ça n'a rien de scandaleux. Je dirais même que c'est dans cette continuité d'ouverture.
Bon, mais faire cette histoire des vivants, faire cette histoire des animaux, maintenant que les historiens s'y intéressent enfin, est-ce qu'ils vont la construire seuls, justement, cette histoire? Il va falloir s'armer, s'entraider avec d'autres scientifiques, je pense notamment aux sciences de la nature.
Oui, on est obligé de travailler effectivement avec d'autres, hein, notamment des vétérinaires, des généticiens, des éthologues qui travaillent sur le comportement des animaux. L'historien lui-même ne pourrait pas, tout seul, ne pourrait pas, comment dire, traquer les indices et les traces qui sont dans les documents. Il a besoin ou de se faire une culture lui-même scientifique, éthologique, etc., ou de dialoguer avec des collègues des sciences de la nature, de manière à pouvoir lire tout cela. Et puis, lorsqu'on a trouvé les traces, à pouvoir aussi les interpréter.
Évidemment, il y a la question des sources. Qu'est-ce que c'est les sources de l'histoire animale du monde? Sur quoi se fonde-t-on justement pour faire de l'histoire, pour entreprendre un travail d'histoire en matière d'histoire animale?
Alors, il y a toutes les sources humaines qui sont
d'abord
abondantes.
Les sources humaines.
En priorité, les sources humaines, c'est celles qui sont les plus abondantes pour l'instant et dans lesquelles on trouve pas mal d'indices. Alors, tout dépend des sources. Il y a des sources qui sont très intéressantes et d'autres qui le sont moins. Ça dépend des auteurs aussi. J'avais trouvé, par exemple, un artilleur de la Première Guerre mondiale qui a fait toute la guerre, en première ligne avec des chevaux. Il n'en dit pas une ligne dans ses mémoires. Donc celui-ci, évidemment, ne peut rien en faire. Par contre, il y en a d'autres qui voient extrêmement les choses et qui ont l'œil, on pourrait dire. Donc il y a ces documents, il y a aussi maintenant de plus en plus ces observations pour les animaux récents. Et puis la grande source du 21e siècle qui est en train de s'ouvrir, c'est la génétique.
La génétique, qu'est-ce que ça ouvre justement comme champ de réflexion, et notamment dans le grand domaine, dans le vaste domaine des sources?
Eh bien, parce que les généticiens et les paléogénéticiens sont capables de nous donner, de trouver des informations dans l'ADN, dans le génome et dans l'épigénome, des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ils sont capables, par exemple, pour nous dire, aussi bien pour des animaux que pour des humains, ça va être aussi une révolution pour l'histoire humaine. Ils sont capables de nous dire que l'individu en question s'est alimenté de telle manière, a eu telle maladie, il est mort à tel âge. Ils sont même capables maintenant de nous dire qu'il a changé de région, ce qui est tout à fait étonnant. Et ils arrivent comme ça, et on n'en est qu'au début, donc je pense que la moisson va s'affiner de plus en plus. Ça va être vraiment une révolution documentaire, absolument prodigieuse.
Alors justement, l'extrait d'un documentaire qui a été diffusé sur Arte le 4 mars 2025 et qui retrace la vie, le parcours surtout de Stevenson à travers la France.
L'âne passa finalement à mon service, moyennant 65 francs et un verre de liqueur. Le sac avait déjà coûté 80 francs et deux verres de bière. De sorte que Modestine, comme je la baptisais immédiatement, était, tout compte fait, l'article le moins onéreux. Cela allait dans l'ordre des choses, car elle n'était qu'un élément de mon matelas. Un bois de lit automobile à quatre roulettes.
Lesté de cet équipage, Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, s'embarque en 1878 dans une de ses expéditions cocasses, dont le jeune Écossais a le secret. La traversée à pied des régions enclavées du Velay, du Gévaudan, du Vivarais et enfin du massif des Cévennes, qui font écho à des souvenirs d'enfance.
Vous faites paraître Éric Baratet, Histoire animale du monde à la recherche du vécu des animaux de l'Antiquité à nos jours. C'est aux éditions Talendier. Pourquoi l'âne de Stevenson vous intéresse? Alors en quoi ça intéresse ce travail, votre travail d'historien?
Ah ben, parce que c'est justement très intéressant au niveau des sources, hein, puisque Stevenson a tenu un journal au jour le jour, lors de son voyage, dont il a tiré ensuite un livre, le livre que l'on connaît, Voyage avec un âne dans les Cévennes, mais les deux ne sont pas identiques. Il y a des choses qui sont dans l'un, qui ne sont pas dans l'autre, il a changé des choses, etc. Mais avec ces documents, on arrive à voir relativement ce qui s'est passé du côté de Modestine. Et on arrive à voir des choses, des petits indices. Il nous donne des petits indices auxquels on pourrait ne pas faire attention si on n'était pas averti, mais qui sont extrêmement intéressants. Par exemple, lorsqu'il la rencontre pour la première fois, comme il est dit là, eh bien, on met sur Modestine des enfants pour lui montrer à Stevenson, et elle envoie balinder tous les enfants. Hein, les faits, tout simplement parce qu'en fait, c'est un âne de trait et non pas un âne de bas, de port, et donc elle n'aime pas avoir quelque chose sur le dos. Hein, c'est un âne de coporteur qui lui faisait tirer la charrette. Rendez compte, avec Stevenson, elle se retrouve avec un bas qu'elle n'a jamais eu et avec 80 kilos sur le dos. Hein, donc on voit l'ampleur du stress, et ce petit indice-là nous fait comprendre ensuite le côté Modestine, au moins les 8 premiers jours, où elle s'envoie énormément.
Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait l'histoire des animaux, quand on fait une histoire animale du monde? Est-ce qu'on cherche d'abord et avant tout à enrichir l'histoire humaine, à mieux la comprendre? Ou bien vous avez perçu dans cette histoire-là, dans cette histoire animale, un intérêt en soi?
Les deux. Ça permet de mieux comprendre le côté humain. Hein, si on prend la Première Guerre mondiale, par exemple, eh bien,
on
ne peut pas comprendre sans les chevaux. Et puis, ça permet effectivement d'accéder à d'autres histoires auxquelles on ne pensait pas du tout. Et donc, ces histoires-là, elles sont intéressantes en tant que telles. Hein, elles ont leur valeur en tant que telles.
Question d'ordre général également sur cette histoire des animaux. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est de faire l'histoire des espèces à un moment donné de l'histoire, l'histoire des chevaux pendant la Première Guerre mondiale, ou c'est de faire parfois aussi l'histoire d'individus, d'animaux identifiés, individuels, pour X ou Y raison d'ailleurs?
Il faut faire les deux parce que ça permet de varier les échelles de regard. Il faut aussi travailler sur une espèce. Par exemple, je suis en train de préparer un livre sur l'histoire canine des chiens, c'est-à-dire l'histoire des chiens de leur côté, de leur domestication à nos jours. Donc il faut multiplier toutes ces focales parce que elles nous permettent de voir des choses différentes à chaque fois. Hein, et ce que vit un individu, on le perçoit bien à l'échelle de la biographie, on ne va pas le percevoir si on reste au niveau du groupe.
Alors, tentons d'illustrer justement toute cette méthodologie que vous avez dépliée avec nous dans ce début d'échange, Éric Baratet. Je voudrais qu'on se concentre justement sur ces chevaux durant la Première Guerre mondiale, et je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un film, Cheval de guerre, film de Steven Spielberg.
Oh non, t'as pas le droit.
Je l'ai dressé.
Albert.
Désolé, c'est mon cheval, monsieur.
J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard, je viens de le payer 30 guinées.
S'il te plaît, je trouverai du travail. Je te ramènerai de l'argent, je te le promets. Je trouverai du travail. Et à moi, il n'obéira jamais à personne d'autre. Il sera pas très utile à la guerre, d'ailleurs. Il s'affole au moindre bruit.
Je suis navré. Je peux te donner ma parole d'homme que je veillerai sur lui. Autant que toi, jusqu'à présent. Je le respecterai, lui, et la peine que tu t'es donnée pour l'élever. Et avec un peu de chance, un jour je te ramènerai ton cheval.
Alors quelques chiffres pour commencer, Éric Baratet, sur cette histoire des chevaux durant la Première Guerre mondiale. Durant ce conflit, environ 8 millions de chevaux, 3 millions de mulets et d'ânes, 100 000 chiens, 200 000 pigeons, vous nous direz d'ailleurs pourquoi, ont été enrôlés sur le front ouest. Comment se met-on à hauteur de cheval durant la Première Guerre mondiale ?
Alors, avec des témoignages de poilus, de combattants, hein, qui ont beaucoup décrit, par exemple Céline, tout simplement, hein, et il parle beaucoup de sa jument dans
Voyage au bout de la nuit.
Au bout de la nuit, voilà, j'oubliais, où il en parle dans Guerre, hein, un des derniers ouvrages parus. Et on a plein de témoignages comme ça. Et donc, avec l'éthologie équine, on arrive à voir ce qui se passe. Et par exemple, le recrutement, là, l'extrait parle du recrutement. Eh bien, on peut comprendre quel est le bouleversement pour ces chevaux qui étaient habitués à un maître, à une voix, à des paroles, à des touchés, etc. Et puis souvent qui étaient seuls ou à deux ou trois et qui se retrouvent d'un coup, dès qu'ils passent le bureau de recrutement, ils se retrouvent entassés des centaines. On sait maintenant que les chevaux sont grégaires, mais ils se méfient quand même des nouveaux chevaux, des nouveaux venus. Alors là, en matière de nouveautés, ils sont servis. Et puis, ils se retrouvent avec aux mains de gens qui ne parlent pas forcément la même langue. Si c'était, leur maître était un breton, qu'ils se retrouvent avec un auvergnat qui lui parle patois auvergnat, le cheval ne va plus rien comprendre. Hein. Et donc, c'est un véritable bouleversement éthologique pour eux, et qui va se traduire d'ailleurs par une forte mortalité. Ils sont dépassés. Les vétérinaires de français ou allemands, fin septembre 14, en font le constat. Ils ont une grosse mortalité qui n'est pas due forcément au combat, mais qui est due à cette déstabilisation des chevaux.
À ce bouleversement du mode de vie. Expliquez-nous tout de même pourquoi les armées ont besoin de tant de chevaux durant la Première Guerre mondiale.
Ah, on ne peut pas faire sans. Les canons, par exemple, sont tirés par les chevaux. Tous les camions, tout le matériel. Un régiment d'infanterie ne peut pas bouger sans chevaux. Il a besoin facilement de 200 à 300 chevaux pour porter les armes, les munitions, l'alimentation, etc., etc. Et donc, on ne peut pas faire de guerre à l'époque sans chevaux.
Et puis, vous vous intéressez à une chose bouleversante. Vous montrez à quel point ces chevaux-là souffrent durant la guerre. Et il y a différents indices qui le montrent, différents indices qui l'expliquent. Là aussi, racontez-nous cette histoire-là.
Oui, cette souffrance, elle est à la fois... Alors, il y a la souffrance des blessures, hein, évidemment. Hein, là, on a plein de témoignages de vétérinaires qui, à l'époque, vont opérer les chevaux à vif pour retirer des balles. Il y a aussi tout le traumatisme de la séparation. Il y a le traumatisme aussi de la guerre, hein, les bruits, l'odeur du sang, etc. Et puis, il y a la lourdeur des travaux. Hein. Par exemple, l'été 14, les états-majors allemands et français vont demander à ces chevaux de faire 50, 80, voire 100 km par jour et plusieurs jours de suite. Ils ne sont pas du tout habitués à ça. Un bon cheval de mine, un bon gros cheval de mine, il est habitué à tirer 10 tonnes, mais sur 300 mètres. Pas à faire 100 km. Un cheval pur sang, il est habitué à courir très vite sur 1 ou 2 km. Mais pas plus.
Je voulais que vous nous racontiez aussi la façon dont vous percevez la souffrance de ces animaux, de ces chevaux, en l'occurrence, la façon dont leur corps bouge, se transforme, se modifie à travers le temps.
Oui, ils ont toute une série de maladies, de déformations. Alors, l'une des plus importantes à l'époque, les Anglais en parlent beaucoup parce que ça les affole. L'été 14 encore, les soldats français ou allemands, mais surtout les Français, ne descendent pas de leurs chevaux, ou très peu, et ne les décèlent pas, ce qui fait que les selles frottent les poils, puis la peau, puis les muscles. On se retrouve avec de véritables plaies, ce qui fait que les chevaux arrondissent de plus en plus leur dos pour ne pas souffrir. Alors, ce sont des puanteurs énormes. On a des textes de cavaliers anglais qui croisent des Français qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette puanteur ?» Les chevaux sont en train de pourrir sur pied, hein, littéralement. Et Céline en parle beaucoup dans ses écrits où sa jument fait le U parce qu'elle n'y arrive plus.
On évoquait tout à l'heure l'idée selon laquelle cette histoire animale est censée pouvoir enrichir aussi l'histoire humaine. Est-ce qu'il y a des connivences, des convergences possibles entre ces animaux inscrits dans la guerre, ces chevaux inscrits dans la guerre, et les humains qui la font ?
Ah ben, de toute façon, les gens de l'époque savent bien que pour qu'un cheval travaille bien, il faut qu'il y ait une bonne relation. On peut utiliser la violence, mais le cheval va très vite dépérir ou se mettre en grève, s'arrêter de travailler, ou tomber malade. Hein, parce qu'il déprime et donc il devient fragile à l'environnement, hein, sensible à l'environnement. Donc les Anglais étaient très, les Anglais savaient très bien ça. Hein. Dans chaque régiment de cavalerie, il y avait un vétérinaire, il y avait ce qu'ils appelaient les maîtres des chevaux. On dirait maintenant un éthologue équin, hein, et qui enseignait aux soldats comment se comporter avec les chevaux pour que justement il y ait une bonne relation et que les chevaux soient efficaces. Alors évidemment, côté français, on n'en était pas encore là.
Je voudrais vous raconter, Éric Baratet, l'histoire d'un chimpanzé. Il s'appelle Ham et le 31 janvier 1961, il a vécu quelque chose d'exceptionnel. Il s'est rendu dans l'espace.
Le bond de l'homme dans le cosmos est pour demain. Dans le berceau, exactement moulé sur son corps, muni de l'équipement complet avec lequel il a dû se familiariser pendant des semaines, le chimpanzé nommé Ham, choisi entre 8 de ses semblables soumis au même entraînement, a, sans le moindre complexe, dans son espèce de sarcophage de plexiglas, pris l'ascenseur pour la capsule Mercury. Celle-ci, à la pointe d'une fusée Redstone, devait l'emporter à la vitesse de 8000 km à l'heure jusqu'à 250 km dans l'espace. Disons que les pronostics ont menti et que la capsule est tombée à 200 km plus loin que prévu. Elle se signalera aux patrouilleurs lancés à sa recherche. C'est ainsi que deux navires la repèrent et que nous la retrouvons sur le pont du Donner, où le berceau de Ham était retiré de son habitacle. Ham, bien vivant, paraissait satisfait de cette aventure vertigineuse qui avait duré 3h46. L'homme dans l'espace est maintenant pour bientôt.
Votre chimpanzé à vous, Éric Baratet, s'appelle Meshi. Vous allez nous en parler, mais avant cela, une question. Comment choisir un chimpanzé plutôt qu'un autre lorsqu'on entreprend l'histoire individuelle d'un animal?
Ben, c'est en fonction des sources, en fait. Les sources nous obligent à faire des tris. Lorsqu'on veut faire une biographie, par exemple, eh bien, on peut partir sur un animal et puis s'apercevoir que les sources ne sont pas assez bonnes, c'est-à-dire qu'elles ne donnent pas assez d'indications. Contrairement à d'autres, où là, on se retrouve avec des indications intéressantes.
Donc on reste tout à fait dépendant tout de même de l'intérêt porté par les humains sur
bien
ces animaux.
Mais comme tous les humains, on ne peut pas faire la biographie de quelqu'un s'il n'y a pas eu des écrits sur lui ou des documents sur lui. Ce n'est pas possible. Donc en fait, on est toujours prisonnier de ça. La génétique va nous libérer, mais pour l'instant, ça reste encore à, je dirais, à 80-90%.
Bon, alors votre chimpanzé, ce Meshi, qui est-il? Racontez-nous.
Ah, c'est un petit chimpanzé capturé par des chasseurs locaux dans le Cameroun actuel, enfin ce qui est devenu le Cameroun, qui a été vendu à un naturaliste américain, Henry Raven, qui était là pour recueillir des animaux vivants et morts pour les institutions scientifiques américaines de New York. Il l'achète, il reste avec lui un petit moment en Afrique et puis il décide de l'emmener, donc voyage en bateau, et il veut l'emmener pour l'intégrer dans sa famille. Et finalement, essayer de faire une espèce d'humanisation de ces chimpanzés, ce qui était assez fréquent à l'époque. Hein. C'est pas lui en particulier, il y a eu plein d'histoires comme ça. On pensait, entre l'époque du darwinisme et les années 1950, ces chimpanzés qui étaient devenus les ancêtres des humains, on allait pouvoir les humaniser. Donc il y a eu pas mal d'histoires. Et alors lui, ce qui est intéressant, c'est que son maître Henry Raven a fait toute une promotion. Il a écrit des articles, il a publié des cartes postales, il a invité les journalistes, il a même fait un film en noir et blanc et muet qui est passé dans toutes les salles occidentales à l'époque et donc a donné une forte célébrité à Meshi. Et avec ça, alors là, on a plein d'indices. Sur ce que vit Meshi. Raven veut nous faire croire qu'elle vit vraiment dans la famille. En fait, ça n'est pas tout à fait ça, parce que l'épouse d'Henri Raven n'est pas très d'accord. Donc elle est dans un entre-deux, cette Meshi. Et on le voit bien par des indices. Par exemple, à un moment, Raven, dans le film, veut à tout prix nous montrer qu'elle sait jouer au ballon. hein, comme si on jouait souvent avec elle. Et en fait, manque de chance, elle est incapable de l'attraper, le ballon. Ça montre bien qu'elle n'a pas l'habitude. Par contre, il y a d'autres choses. Dans le jardin, utiliser le tuyau pour arroser la maison, pour se doucher, etc. Ça, elle sait faire. Ça prouve que elle y a passé du temps, elle a appris, etc.
Est-ce qu'en creux, faire l'histoire d'un individu animal, c'est nécessairement faire l'histoire de son maître ou des humains qui l'entourent ou de l'institution qui l'accueille ?
En creux, oui, parce que ça forme un contexte. Or, n'importe quel être vivant vit dans un contexte. Donc, on a besoin du contexte, là, humain, par exemple, pour comprendre comment cet animal réagit, comment il s'adapte, etc., etc. Il y a des choses pour lesquelles elle s'adapte très bien, puis d'autres où elle a plus de difficultés.
Vous avez parlé tout à l'heure, Éric Baratet, de faire l'histoire des vivants, sans préciser lesquels. Est-ce que ça veut dire qu'il faut accélérer, s'ouvrir aussi à l'histoire des végétaux, bien plus qu'on ne le fait aujourd'hui ?
Oui, oui, oui. Alors, il y a une forte histoire des végétaux qui s'est développée depuis une trentaine d'années, mais c'est une histoire côté humain. Hein, comment les humains se représentent, utilisent les végétaux, etc. Il faut aller du côté végétal. C'est un livre que j'essaye de préparer en ce moment. Faire un point de vue végétal ou une histoire végétale du monde, si vous voulez.
Hein, sans se mettre à hauteur de pâquerettes, donc.
À hauteur d'arbre.
À hauteur d'arbre. Merci beaucoup Éric Baratet. Je rappelle donc le titre de ce livre que vous venez de faire paraître, Histoire animale du monde, à la recherche du vécu des animaux de l'Antiquité à nos jours. C'est chez Talendier, c'est sorti ce mois-ci. Merci beaucoup.
Merci.